l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous, merci de rester fidèles à notre émission Les Échos de la solidarité internationale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Vinas pour Espoir pour un enfant. Bonjour Michel.
Bonjour Sonia.
Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons présenter rapidement Espoir pour un enfant, qui est une association située dans l'Hérault, plus particulièrement à Saint-Jean-de-Védas, et qui agit pour apporter une aide de secours immédiate aux enfants. Alors, vous intervenez dans des domaines essentiels au développement de l'enfant. Ce sont même des besoins primaires sur la pyramide de Maslow, à savoir la santé, la nutrition, l'éducation. Et au cœur de votre action, c'est l'accueil des enfants dans des hôpitaux français pour leur permettre de réaliser des opérations qui auraient notamment pas pu se réaliser dans leur pays ou qui sont très compliquées. Donc voilà, l'accès à des soins et aux hôpitaux pour les enfants. Alors Michel, pouvez-vous nous présenter plus en détail les secteurs d'activité, les secteurs d'action d'Espoir pour un enfant ?
Mais disons que vous l'avez dit, c'est les hospitalisations qui sont le principal, effectivement, le principal objet de l'association. C'est dû un peu au fait des hôpitaux de Montpellier et puis d'une demande dès le départ de notre association qui a maintenant un peu plus de 40 ans. Qui a été interpellé justement pour soigner une petite fille, je crois, d'Angola. Et donc, on a fait venir cette petite fille dans un hôpital français. On l'a soignée, elle était dans une famille d'accueil, elle est repartie. Et à partir de là, il y a eu des demandes chaque année de plus en plus nombreuses. À un moment même, on était pratiquement, on faisait venir 50 enfants par an, pour les soigner en France. Alors, ça demande effectivement une famille d'accueil, une famille qui se propose pour accueillir l'enfant. L'association prend tout à sa charge, effectivement, elle n'a pas la sécurité sociale, donc on est obligé de payer l'hôpital ou de payer dans les cliniques, bien qu'on ait quelques cliniques qui nous fassent des gratuités, en particulier la clinique Saint-Jean. Donc cet enfant vient en France accompagné souvent par Aviation Sans Frontières, qui nous permet, qui fait le lien et qui va amener l'enfant et qui va le ramener. En amont, on a fait tout un dossier médical pour savoir quelle est la pathologie de l'enfant et pour savoir nous qui il nous faut contacter en France. Dès qu'on a un dossier médical complet, on regarde quand est-ce qu'on peut faire venir l'enfant. Et à partir de ce moment-là, Aviation Sans Frontières nous l'amène. On le récupère, nous, en général à Montpellier ou à Paris, mais en général à Montpellier. Et on l'amène dans une famille d'accueil. Dès que c'est possible, on fait opérer l'enfant. Et dès que les soins sont terminés, on renvoie l'enfant dans son pays. Alors bien sûr, quand l'enfant est en France, chaque fois qu'on peut, que ce soit avant l'opération ou pendant sa convalescence, on le scolarise. En général, il n'y a aucun problème pour ça, de pratiquement partout. On accepte ces enfants dans les écoles et ils apportent un témoignage assez étonnant. Ils se font vite beaucoup d'amis et il y a beaucoup de gens après qui tiennent à garder des relations avec. C'est vrai que l'enfant qui arrive apporte quelque chose d'assez exceptionnel et bon, il faut le vivre pour le voir vraiment. Alors ça, c'est la principale action d'Espoir. Après, on fait aussi pas mal d'hospitalisations en France. Alors cette année, effectivement, ces hospitalisations que nous faisons en France sont très à l'étranger, pardon, je veux dire. Ces hospitalisations qu'on fait dans le pays même, si vous voulez, on aide des enfants qui sont démunis ou des familles qui sont démunies à être opérés chez elles. Parce que dans les hôpitaux en Afrique, il n'y a pas la sécu, il n'y a pas la gratuité. Donc, si les familles ne peuvent pas payer l'opération, souvent l'enfant n'est pas opéré. Et donc, on intervient à ce niveau-là, on paye souvent l'opération et les soins sur place. Avec nos correspondants, on a des correspondants sur place avec qui on travaille. Alors, cette année, effectivement, c'est très important parce que on ne peut pas faire venir d'enfants actuellement. Les relations sont coupées. On ne peut pas renvoyer les enfants et on ne peut pas les faire venir à cause du Covid. Et donc, effectivement, ces opérations se font sur place. Et nous, on est là pour surveiller à mesure que ça se fasse bien et qu'on envoie l'argent pour que l'opération puisse avoir lieu. Alors actuellement, effectivement, on met l'accent là-dessus puisque depuis le mois de mars de l'année dernière, on n'a pas pu faire venir un seul enfant. Et on a eu énormément de mal à ramener les enfants qu'on avait. Et le dernier qu'on a eu est reparti au mois de novembre. On a actuellement une enfant encore en France et qui vient d'être opérée, qui a été reportée depuis le mois de mars jusqu'au mois de novembre et qui a été opérée au mois de novembre, heureusement. Voilà. Donc, c'est actuellement une situation très, très difficile à ce niveau-là. On a aussi des actions de développement à l'étranger. On a énormément d'actions de développement à l'étranger. Et alors, là aussi, on met un peu l'accent là-dessus. On est actuellement en train de... On finit de construire une école à Cotonou. On travaille avec un médecin béninois depuis plus de 20 ans. Et là, effectivement, on arrive maintenant à la fin de l'aide qu'on lui a apportée pour l'école. Au départ, c'était un médecin qui travaillait dans une structure où il n'y avait pas d'école. C'était un quartier lacustre, c'était une cité lacustre, dans lequel il n'y avait pas d'école. Et le médecin s'est rendu compte que soigner les enfants, et si on n'apportait pas en même temps de l'éducation, c'était sans fin. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les règles d'hygiène, s'il n'y avait pas des moyens contraceptifs, on n'arrivait pas, s'il n'y avait pas de planification, on n'arrivait pas à avancer. Et donc, il a commencé à faire une petite école en 2000, une école qu'il a installée sur la cité lacustre dans une vieille catéchèse. Et cette école, avec 50 enfants au départ, il n'y avait que des garçons. Au bout de quelques années, les filles ont commencé à rentrer dans l'école. Et actuellement, dans l'école qu'on a construite, on a 370 enfants, autant de filles que de garçons. Donc, l'objectif qui s'était fixé au départ est atteint, c'est-à-dire que toutes les filles sont scolarisées aussi bien que les petits garçons.
Et c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, et d'ailleurs vous anticipez sur les questions que j'allais vous poser. C'est que en fait, EPE intervient bien entendu également au niveau scolaire en apportant son soutien au développement de l'éducation dans les pays où elle intervient. Alors vous intervenez dans différents pays d'Afrique, au Mali, au Bénin, au Togo et j'en passe, où vous agissez globalement pour améliorer l'éducation. Alors, pour pouvoir étudier dans des conditions optimales, comme vous le disiez, il faut que certaines conditions soient réunies, telles que l'accès à l'eau, à la cantine pour les repas, à des bâtiments fonctionnels, des infrastructures sanitaires optimales, pour que tout ça favorise en fait l'éducation et l'accès à l'éducation. Alors, vous aviez déjà commencé, mais est-ce que vous pourriez un petit peu détailler les principaux projets concernant l'éducation qui ont été élaborés durant ces dernières années par EPE?
Mais l'éducation, c'est surtout cette école au Bénin qui a été commencée effectivement il y a maintenant 7 ou 8 ans. Disons que cette école avait été inondée une fois. On travaille avec une association au Bénin qui s'appelle La Vie Nouvelle, et effectivement qui avait un gros dispensaire qui est devenu une clinique maintenant d'ailleurs. Et à côté, ils avaient construit cette école sur le lac. Elle a été inondée une fois, puis une deuxième. Et nous, on a dit, bon, on peut pas vous laisser comme ça, intervenir chaque fois pour vous aider à réparer l'école. On va vous aider à la construire sur le bord du lac. Donc, on a construit cette école hors d'eau. Et actuellement, elle est pratiquement terminée. On est en train de faire les finitions, la cour de l'école, quoi, je veux dire, la clôture. Donc, l'école elle-même est terminée. Et ça permet effectivement de scolariser des enfants qui n'allaient jamais à l'école avant. Actuellement, comme nous avons terminé cette école, nous sommes en train de travailler à construire une autre école au Congo, à la République démocratique du Congo. Ce projet nous avait été présenté pendant qu'on construisait la première école, donc on ne pouvait pas le prendre en charge en même temps. Et on commence à le prendre en charge maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des constructions de classes et des classes à réhabiliter. C'est une vieille école qui, petit à petit, a été construite, je crois, dans les années 50 et qui est complètement, quand on voit les photos, elle est complètement en ruine, quoi. Donc, elle est à reconstruire, elle est en train d'y travailler dessus. Voilà, c'est les deux projets principaux qu'on a. On a aussi actuellement un petit projet avec Madagascar. Alors, on a affaire à une association malgache dans laquelle c'est un Européen, un Français qui s'est installé là-bas, qui travaille dans une association malgache, qui a mis en place effectivement une école assez importante maintenant. Et dans cette école, il s'est rendu compte que tout le monde ne pouvait pas suivre. Et donc, les enfants, à l'âge de 12 ans, il y en avait pas mal qui décrochaient. Et il veut faire maintenant une sorte de classe de cuisine, disons des cours de cuisine. Et pour ça, il nous a demandé son aide pour construire une cuisine un peu en inox, une cuisine qui soit opérationnelle et qui serve en même temps pour la cantine de l'école. Voilà, actuellement, on est en train de travailler là-dessus et on est en train d'envoyer une subvention pour les aider là-dessus.
D'accord, super. Bah, merci beaucoup pour le détail de vos réponses. Alors, dans un second temps, et avant d'enchaîner sur notre deuxième partie, on va faire une petite pause musicale. Alors, Michel, vous avez choisi une musique, je vais vous laisser la présenter.
Ah ben, c'est la Marche des Rois. La Marche des Rois, c'est une musique, effectivement, de Noël. C'est une musique provençale. L'origine, un peu, certains la mettent à chez Lully, mais je pense qu'elle est plus ancienne que ça, même. Elle remonterait au 11e ou 13e siècle. Et c'est une musique qui a été reprise, qui est très, très populaire. Donc, c'est une musique qui a cours actuellement en Provence et dans le Languedoc, en période de Noël.
Super.
Elle est très entraînante.
Alors, à tout de suite. Nous sommes de retour avec Michel sur les échos de la solidarité internationale. Alors Michel, vous évoquiez les merveilleux projets humanitaires et de développement que vous menez dans de nombreux pays du Sud dans le but d'améliorer les conditions sanitaires et d'éducation pour les enfants démunis. Alors pour réaliser vos actions d'aide à l'hospitalisation, de la prise en charge des soins des enfants, de la construction de puits, d'écoles, vous comptez, comme de nombreuses associations, sur les dons, sur les subventions, les legs, mais aussi les parrainages de particuliers ou de professionnels. Et en plus, vous avez la spécificité d'avoir une braderie. Alors, ces braderies proposent notamment des produits artisanaux confectionnés par les bénévoles. Alors, Michel, comment sont organisés et gérés ces dons à Espoir pour un enfant? Et ensuite, quel est le principal interlocuteur de Espoir pour un enfant lorsqu'il s'agit de faire des demandes de subventions pour les gros projets humanitaires tels que vous les avez cités?
Eh bien, disons que le principal sponsor d'Espoir, ce sont les bénévoles. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail, on fait un peu comme Emmaüs, il y a tout un travail fait par les bénévoles. Si vous voulez, toute l'année, nous recevons des dons en nature, que ce soit des vêtements, que ce soit des livres, des jouets, et ainsi de suite, quoi. Tous ces dons sont triés, sont revalorisés. Alors, on travaille un peu avec le relais, effectivement, le relais qui est une association issue d'Emmaüs, qui va reprendre tout le linge qu'on a, qui ne nous sert pas, et qui va être recyclé. Et nous, le linge, nous faisons un tri important, et que nous revendons dans les braderies. Le linge, la brocante, le foyer, les livres, les jouets, ainsi de suite. Et tout ce que nous avons récupéré, qui est en bon état, nous le remettons à la vente. Nous venons de faire, par exemple, sur Saint-Jean-de-Védas, les deux derniers week-ends, la vente de ce qu'on appelle la vente de Noël. C'est-à-dire que tous les plus beaux articles qui nous sont donnés et qu'on peut valoriser comme il faut, sont mis à la vente. Et cette vente nous permet effectivement d'avoir, on a fait une vente sur deux week-ends, le samedi, le dimanche 5 et 6, et puis la semaine d'après sur le samedi. Cette vente nous a rapporté quand même 14 000 euros. Donc, ça reste quelque chose d'important. Et les braderies toute l'année, quand on va, on a des braderies chaque semaine, à certaines périodes de l'année. Là, on va les reprendre au mois de mars, normalement. Au mois de février, je crois, fin février, mars, avril, on fait des braderies. Et ça nous rapporte, ça fait pratiquement la moitié de notre budget. Et c'est vrai que on n'a pas énormément de sponsors, même pour ne pas dire qu'on n'en a pas du tout. C'est le travail des bénévoles qui est très important. Alors c'est vrai que vous avez évoqué les parrainages sont aussi un domaine important, à la fois dans le développement, mais surtout effectivement pour la scolarité des enfants et pour leurs souhaits. Il y a quand même près de 300 enfants qui sont parrainés actuellement, et donc il y a des parrains qui toute l'année nous verse 25 ou 30 euros par mois pour parrainer un enfant. Et ça, c'est très important aussi, que ça représente quand même une bonne partie de l'aide pour les enfants. Voilà. Et si vous voulez, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, mais je voulais vous lire une lettre de l'enfant qui est hospitalisé actuellement en France. Actuellement, nous n'avons qu'une petite qui est hospitalisée en France. Et la maman l'a écrit parce que c'est une maman qui avait de gros problèmes. Je vais vous lire la lettre qu'elle nous a envoyée.
Allez-y.
Et le laboratoire Coloplast a fait un don de sondes pour la petite pendant 5 sondes par jour pendant toute sa vie, toute la durée de sa vie. Et ça, la maman, ça a été la goutte d'eau un peu qui a fait déborder le vase, et voici ce qu'elle nous écrit. Bonjour à toute l'équipe de Coloplast, à toute l'équipe médicale et à toute l'équipe d'Espoir pour un enfant et à toi Malika et à ta famille. Je demande à Malika, la famille qui accueille ma fille Kayla, de vous faire suivre mon message. Il y a encore quelques mois, je voulais mettre fin à mes jours et à ceux de mes enfants tellement la vie m'était insupportable. J'avais 10 ans et deux sœurs de 8 ans quand mes parents sont morts du VIH. Nous avons été recueillis par une association orpheline du sida et malgré notre malheur, nous avons pu continuer nos études supérieures. Je suis enseignante car je voulais m'occuper d'enfants et surtout me battre pour l'éducation des filles. Je me suis mariée et eu 3 beaux enfants. En 2015, notre petite Kayla a été renversée par une voiture. Le choc fut violent et ma fille s'est retrouvée plusieurs semaines dans le coma et de multiples fractures du bassin et une fracture crânienne. Il nous fallait la faire soigner au Rwanda. Au Burundi, les structures médicales sont pauvres et manquent de matériel. Nous nous sommes endettés pour faire soigner ma fille. Un an plus tard, mon mari meurt sous les décombres de notre maison qui avait subi les inondations saisonnières, comme si un malheur ne suffisait pas. J'ai dû faire revenir ma fille au Burundi, ne pouvant plus subvenir à la suite de ses soins. Avec le soutien de quelques personnes, j'ai pu être logé provisoirement à la paroisse de mon quartier. J'ai retrouvé un poste d'enseignante et de mon salaire, après mes mensualités de crédit pour le soin de ma fille qui me sont prélevées, il nous reste 10 euros par mois pour vivre. Loyer et nourriture pour mes enfants, le salaire d'un enseignant est de 68 euros. L'incontinence de ma fille, les infections urinaires ont encore creusé ma dette. J'avais décidé de tout arrêter et de finir notre chemin ici-bas. J'étais allé en parler à un prêtre car je suis croyante. Mais la vie en a décidé autrement. Le prêtre m'a envoyé vers une association qui prenait en charge les soins des enfants. Nous ne savions pas que Kayla n'avait plus d'urètre. Nous pensions que c'était une fistule, qu'elle allait venir en France et qu'ensuite elle n'aurait plus de problème. Mais arrivée en France, le corps médical a vu que c'était plus grave. Et pour Kayla, soit elle restait incontinente avec tout ce qui en découle, exclusion scolaire, infection sur infection, ou il y avait une autre possibilité, mais il fallait se fournir en sonde. J'ai accepté la proposition des médecins français. Je savais que ma fille aurait besoin de sondes pour se sonder et cela m'inquiétait. Car comment acheter les sondes? Quand Malika m'a dit que vous, l'équipe de Coloplast, vous acceptiez de fournir ma fille hein, par 5 sondes par jour à vie, je n'en croyais pas mes oreilles. À travers Madame Gallois et Madame Miotto, c'est tout le laboratoire Coloplast que je remercie du plus profond de mon cœur. Vous avez sauvé la vie de ma fille, mais aussi celle de sa sœur, de son frère et celle de sa mère. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Vous nous avez redonné confiance en la vie et en l'humanité. Je ne sais pas si vous êtes croyant, mais dans cette période de l'Avent qui nous conduit vers Noël, je souhaite que vous receviez toutes les grâces de joie, de paix et d'amour. Recevez toute ma gratitude et mille merci, Jeannette, Keita, Kayla et Pinchy. Voilà, ce témoignage est un peu bouleversant parce que quand on reçoit ça, on se rend compte que le travail qu'on fait parfois touche beaucoup plus que ce qu'on imagine parfois. Et on se rend compte qu'à travers ça, bon, des choses qui nous paraissent simples ici où nous avons la sécurité sociale et ainsi de suite, là-bas, ça devient des problèmes insurmontables. Voilà. Et donc, à cet appel, nous aussi, nous allons répondre, je pense, au niveau d'espoir pour un enfant. Nous l'avons décidé récemment. Nous allons essayer de prendre en charge la dette de cette maman, qui est de l'ordre de 4000 euros. Et nous allons faire des appels, justement, pour nous aider, justement, à la rembourser. Voilà.
D'accord. Merci. Merci pour ce témoignage bouleversant. Très, très difficile de rebondir face à ça. Mais effectivement, on remercie mille fois les associations humanitaires, EPE et toutes les autres qui œuvrent pour l'humanité. Alors, pour reprendre un petit peu nos esprits et pour enchaîner sur notre dernière partie d'émission, on va faire une deuxième petite pause musicale. On va faire cette petite pause musicale sur la marche turque. Nous sommes de retour avec Michel pour cette dernière partie d'émission. Alors, comme beaucoup d'associations, vous reposez en grande partie sur la participation des bénévoles pour la réalisation de vos actions. Les bénévoles qui participent activement et qui sont au centre de vos actions. Alors, en ces temps difficiles de la crise du Covid, comment est-ce que vous gérez vos relations avec les bénévoles et comment est-ce que vous vous adaptez à ces conditions difficiles?
Eh bien, on n'y arrive pas trop mal pour le moment. Alors, l'avantage que nous appelons l'avantage financièrement, disons que l'avantage qu'il y a, c'est qu'effectivement, les enfants ne peuvent pas venir en ce moment et que même l'hôpital a énormément de mal à les prendre en charge. Dernièrement, l'hôpital nous a fait savoir que si on faisait venir des enfants, ils ne pourraient pas les opérer rapidement. Ils ont 800 enfants en attente. Donc, effectivement, ça nous pose un problème au niveau des hospitalisations. Et disons que le budget des hospitalisations actuellement est moins important puisqu'effectivement, on a beaucoup moins d'hospitalisations en France. Et ça sera certainement pareil encore en 2021 pour une bonne partie de l'année. Et ce qui fait que, bon, le fait que nous perdions des recettes, parce que, par exemple, toutes les braderies que nous faisions, nous ne pouvons plus les faire actuellement. Les seules ventes que nous arrivons à faire, nous les faisons dans la cour du local à Saint-Jean-de-Védas de l'association. Par contre, bon, les dons continuent à arriver, les gens qui adhèrent continuent à adhérer, les parrainages nous sont versés aussi, et il y a quand même des gens qui continuent à nous faire des dons. Ce qui fait que, on arrive quand même à assumer effectivement tous nos engagements. C'est ça qui est important. D'ailleurs, pour contacter l'association, il y a un site qui s'appelle Espoir Enfant 34. C'est très simple, vous tapez Espoir Enfant 34 et vous avez sur le site à mesure toute l'information concernant l'association. Elle est mise à jour assez régulièrement. il fonctionne très bien. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site. Nous avons aussi une revue que nous envoyons à tous nos adhérents et à tous les gens qui nous font des dons ou qui participent à nos ventes. Cette revue, elle paraît en général une fois par trimestre à peu près. On essaye de la faire apparaître tous les trimestres. Et après, je sais pas ce qu'il vous faudrait comme information peut-être. Au niveau du courriel, on a un courriel qui est contact@espoirenfant34.fr. Je répète, contact@espoirenfant34.fr. Et le site et un numéro de téléphone, c'est le 07 89 88 57 52. Il y a toujours quelqu'un qui répond et qui renseigne. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel pour les gens qui veulent nous contacter ou se renseigner.
Super.
Est-ce que vous avez autre chose une autre question ou non?
Eh bien, vous avez répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous, Michel.
Merci à vous de nous donner l'occasion, effectivement, de parler de nos actions. Et puis, bon, pour les gens qui sont disponibles, sachez qu'on fait la Saint-Vincent le 24 janvier à Gijan, si c'est faisable, et qu'on a la première braderie, je crois qu'il s'est fait novembre à Pignan, c'est le 27 et 28 février 2021. Voilà.
D'accord.
Et après, on aura ces reins de Védas, Poussin et Chichan, ainsi de suite.
D'accord. Bah, moi, personnellement, j'essaierai d'être disponible pour vous saluer et soutenir les actions de EPE. Voilà.
Je vous remercie beaucoup de votre accueil.
C'est un plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Merci, au revoir.